Il faut s'informer à savoir qu'est-ce qui se passe du côté de la Ligue nationale de hockey. Martin McGuire est avec nous. Salut Martin.
Bonsoir Jérémy, c'est intéressant parce que ton sujet de ce soir nous donne quand même une confirmation sur ce à quoi on pouvait s'attendre de ce que fut le contenu de la direction, de la discussion, dis-je bien, entre M. Monson et M. Legault la semaine dernière.
Exactement, c'était ça. Et pour ces spectacles et pour les événements sportifs, ça sera oui. Ça le grand questionnement. Comment faire pour que les gens puissent, et surtout, quel sera le sentiment que les gens auront en visitant des événements, que ce soit sportifs ou des spectacles? C'est ça la grande question.
C'est la grande question et tout ça tourne autour d'une chose, Jérémy, c'est bien évident, on parle des revenus. Et là, je fais un lien avec la négociation qui se poursuit, mais selon les informations que j'ai, ça se poursuit, mais à un rythme très lent. Au moment où on se parle, il n'y a pas beaucoup de séances de négociation entre les deux parties, il y a plutôt des échanges d'informations d'un côté et de l'autre de la table, du côté des propriétaires et des joueurs. Les enjeux économiques sont importants, Jérémy, et c'est la raison pour laquelle on est en train d'imaginer des scénarios ou de faire de la gymnastique avec les finances pour être capable de rencontrer les paiements. Les paiements, c'est bien sûr les salaires des joueurs et les frais d'opération, parce que là, il n'y a pas de revenus actuellement dans la Ligue nationale. Et c'est pour ça que c'était si important pour les propriétaires de pouvoir conclure, du moins entre eux, l'idée de jouer dans leurs propres édifices. Parce que dans leurs propres édifices, comme je te disais la semaine dernière, ils peuvent un peu plus tirer des revenus. Les enjeux avec les joueurs sont les suivants. On sait, Jérémy, qu'au moment où on se parle, là, avant même qu'on commence à négocier, les joueurs recevraient techniquement à peu près 72 à 75 de leur paye pour la prochaine saison. Ça, c'est dû à la dernière négociation. C'est quoi la dernière négociation? C'est une ponction de 20 % qui s'en va dans le bas de laine, ce que les joueurs et ce qu'on appelle l'escrow, et ajouter à ça un 10 % de salaire différé qui a été négocié lors de la dernière convention. Quand je dis que le défi des propriétaires, c'est de rencontrer leurs obligations financières, à savoir le salaire des joueurs et tout là, leurs frais d'opération, c'est que maintenant, l'association des joueurs se préparerait à recevoir une demande, si ce n'est déjà fait au moment où on se parle, des propriétaires. Quelle serait cette demande, Jérémy? C'est qu'on demanderait aux joueurs de faire un sacrifice de 13 %. Ce sacrifice de 13 % leur serait remis un peu plus tard à l'intérieur de la convention collective qui, on le sait, couvre 6 ans. Il y a déjà des paiements différés qui ont été négociés et signés dans l'entente qui a été réalisée cet été pour le retour au jeu pour les séries. Mais la situation financière force la Ligue nationale à demander peut-être aux joueurs un 13 % de plus, Jérémy. Ce 13 %-là, c'est quand même un coût que les joueurs vont peut-être devoir prendre pour pouvoir revenir au jeu et toucher leur argent ultimement jusqu'à la fin de la convention collective. Le pari que les propriétaires prennent, c'est que dans la saison 21-22, ça reviendra à la normale avec un vaccin, avec des spectateurs, puis que là, on pourra reconstruire et avoir des revenus qui permettra à ces derniers de remettre ce qu'ils devront aux joueurs au fur et à mesure. Alors là, les joueurs, on va voir, ce qui va être intéressant, c'est que si les joueurs acceptaient de donner un 13 % de plus pour améliorer, en bon québécois, la réserve de cash des propriétaires pour pouvoir opérer cette année, ben c'est sûr que les joueurs vont demander quelque chose. Et ce qu'on ne sait pas, Jérémy, c'est le quelque chose que les joueurs vont tenter d'obtenir pour se rendre à ce que les propriétaires auraient besoin pour pouvoir opérer cette année.
Est-ce qu'il y aurait possibilité du côté de l'association des joueurs qu'on demande aux propriétaires de la Ligue nationale? Vous pouvez peut-être nous demander un 13 %, mais est-ce que c'est possible de ne pas l'appliquer à l'ensemble des joueurs, mais plutôt viser des joueurs dans chaque équipe qui, eux, avec un salaire qui est vraiment au-dessus de la moyenne, pourraient peut-être négocier avec les organisations individuellement?
Ça, c'est l'autre affaire qui serait sur la table. Et là, moi, j'ai pas eu de confirmation de ça, Jérémy. L'autre élément, j'ai eu une confirmation d'une source, là, mais l'autre élément là, qui a été avancé par le collègue Larry Brooks dans le New York Post ne m'a pas été confirmé. Mais ce dont tu fais référence, c'est qu'on donnerait, et ça, c'est pas passé à l'association des joueurs, là, c'est que les propriétaires, entre eux, auraient convenu qu'ils auraient la possibilité, chacun de leur côté, dans leur club respectif, de négocier avec des hauts salariés de leur équipe des paiements différés, indépendamment des règles de la convention collective ou encore de ce qui sera négocié globalement avec les joueurs. À titre d'exemple, pour que les gens comprennent, là, les hauts salariés du Canadien, on les connaît tous. C'est Carey Price, c'est Shea Weber, c'est Josh Anderson, c'est Brandon Gallagher. Ce sont eux les principaux hauts salariés de l'équipe. Jeff Petrie. Alors là, on pourrait donner l'opportunité, si M. Molson le voulait, c'est seulement à titre d'exemple que je prends M. Molson, là, comprenez-moi, là, c'est pour que les gens comprennent là, avec des exemples proches de nous. Je dis pas que c'est le cas pour le Canadien. Mais M. Molson, techniquement, avec ce que les propriétaires auraient, je dis bien, non confirmé, convenu entre eux, c'est que le propriétaire du Canadien pourrait dire à Shea Weber ou à Carey Price, il dit, écoute, là, messieurs, en plus du 60%, là, moi, ce que je peux faire avec vous, là, c'est de faire certains paiements différés avec vous pour faire en sorte que vous ayez tout votre argent d'ici la fin du contrat. Vous ne perdrez rien, mais moi, vous allez me donner un break. Alors ça, ce serait entre propriétaires ce qu'il a été question au cours des derniers jours pour que certaines équipes qui ont vraiment pas d'argent, Jérémy, et qui ont vraiment des problèmes de liquidité puissent subvenir aux besoins salariales des contrats qu'ils ont déjà signés avec les joueurs. Alors ça, évidemment, il n'y a pas de confirmation là-dessus, mais on est vraiment là-dedans. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de négociation directe avec les joueurs, Jérémy, parce qu'actuellement, là, on sent, on regarde et on écoute, puis on s'aperçoit que les propriétaires de la Ligue nationale ont beaucoup de problèmes à régler entre eux.
Ah non, clairement, ça c'est sûr, parce que c'est pas tout le monde qui est dans la même situation financière. Juste pour mentionner, Martin, tu avais vu juste, parce que le 40 à 60 matchs, c'est vraiment... 48 à 60, c'est vraiment dans les cartons présentement. Et je lisais Pierre Lebrun aujourd'hui qui parlait, ce que tu nous as mentionné, dans 7 à 10 jours, il va falloir que ça se fasse, là, c'est prochainement.
Absolument. Absolument. Puis, écoute, déjà, là, les gars de la NBA, là, les joueurs de la NBA vont se rapporter le 30 novembre pour pouvoir jouer le 22 décembre. Alors, faites l'équation. Si les joueurs de la Ligue nationale s'entendent avec les propriétaires pour jouer le 1er janvier, ben c'est pas compliqué. Le 1er décembre, il faut que tout le monde commence à bouger parce qu'il y a des quarantaines. T'sais, c'est peut-être pas le cas beaucoup dans la NBA. Là. J'ai pas sondé, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs européens dans la NBA. Les quelques-uns sont peut-être restés aux États-Unis, mais dans la Ligue nationale, il y en a un puis un autre, il y en a dans chaque équipe, et évidemment, il y a des joueurs américains qui jouent au Canada et des joueurs européens qui jouent aussi au Canada, où là, il y a vraiment une quarantaine de 14 jours qui est vraiment prescrit par les gouvernements, puis il n'y a pas eu d'allègement là-dessus, là. Alors, honnêtement, Jérémy, là, si on veut vraiment commencer le 1er janvier et camp d'entraînement le 15 décembre, il faut que, principalement, les joueurs étrangers qui jouent pour des équipes canadiennes se montrent le bout du nez au plus tard le 1er décembre pour pouvoir être à temps pour les camps d'entraînement. Mais je répète encore une fois, selon les informations que j'ai et que me suis fait confirmer aujourd'hui, c'est que le rythme des négos est assez lent. Et ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le 1er janvier auquel tient Gary Bettman.
En fait, on va suivre Jesperi Kotkaniemi en Finlande. Quand lui sera rappelé, ben on aura, ça nous donnera une idée de grandeur à savoir dans combien de temps ça devrait se passer.
D'après l'idée, moi, c'est de coller un GPS. Mettez un GPS dans le sac d'équipement de Kéké, puis vous allez savoir ce qui se passe.
Un des préparateurs physiques du Canadien aujourd'hui s'est entretenu avec vous. Disons que ça, c'est quelque chose qui devient extrêmement important dans ce moment d'inactivité.
Oui, effectivement, parce que, bien évidemment, l'horaire est complètement chambardé. Les habitudes des joueurs, on le dit. Arrêt le 12 mars dernier, reprise quelques mois plus tard, des séries en plein été, au moment où les joueurs commencent un peu d'entraînement ou se reposent. On leur demande d'être à leur maximum. On a vu ce que ça a donné, entre autres, le Lightning, les Stars, qui ont joué jusqu'au 1er octobre, des séries âprement disputées. Là, maintenant, les joueurs du Canadien, à titre d'exemple, qui ont arrêté de jouer joué au mois d'août, qui ont été éliminés au mois d'août. Eux ont eu une partie du mois de septembre pour commencer, pour se reposer, pour recharger les batteries, pour aller dehors un peu, Jérémy, parce que ça a été dur, la bulle, mentalement, de s'enfermer, littéralement, de se cloîtrer entre l'aréna et l'hôtel. Alors, pour que ça fasse du bien physiquement, il faut que ça commence à faire du bien dans la tête. Alors, les premières semaines de septembre ont été pour charger les batteries. Là, les gars sont revenus, entre autres, sur la patinoire pour une bonne majeure partie. Ceux qui sont capables de le faire, ceux qui sont du Québec, c'est plus difficile à faire. Mais pour ce qui est des autres provinces canadiennes, à part l'Alberta qui est retourné dans le même cul-de-sac là, par rapport aux fermetures de plans sportifs. Par contre, les Américains et les joueurs du Canadien qui évoluent en Colombie-Britannique, il y en a plusieurs, eux, ils sont capables de patiner. Alors ça, c'est au moins ça de prix là, du côté des joueurs. On est en phase, au moment où on se parle, là, en plein milieu du mois de novembre, on fait ce qu'on devrait faire à peu près à la mi-juillet dans un moment régulier. Écoutons Patrick Delisle-Houde, préparateur physique du Canadien, qui nous explique la phase d'entraînement actuelle.
La plupart des joueurs avaient recommencé au mi-septembre. Ce qui est super important, il faisait beau dehors, les joueurs ont passé beaucoup de temps à l'intérieur, ils ont passé beaucoup de temps à l'intérieur durant les playoffs. En ce moment, on est deux mois. Je te dirais, on est rendu environ, si on compare à l'été, on était rendu au mois de juillet, environ. Les joueurs ont commencé à patiner, la pédale n'est pas dans le plancher, on ne veut pas que les gars soient 5 à 6 fois par semaine sur la glace en ce moment, ce qui n'est pas nécessaire. Le but, c'est pas de les fatiguer quand ils arrivent au camp d'entraînement, c'est de les préparer. C'est que tout dépendant dans quelle région qu'ils soient, on s'assure que les joueurs soient capables d'avoir des touches sur la patinoire, capables d'avoir un petit stress qui est appliqué en patinant, ainsi que dans le gymnase.
OK. Martin, oui, excuse-moi, vas-y.
J'allais dire qu'on fait des suivis, Jérémy. On fait des suivis à toutes les semaines, à toutes les deux semaines au maximum avec les joueurs. Autant là, les vétérans que les jeunes recrues, que les plus jeunes qui sont éparpillés un peu partout dans l'organisation. Là, on fait des suivis serrés. On parle également aux préparateurs physiques personnels des joueurs. Okay. Parce qu'on veut avoir aussi une lecture de ces gens-là qui sont en mesure de dire ben OK, votre joueur, là, il va bien dans tel et tel département, mentalement, physiquement, ça va bien. On s'informe directement aux joueurs parce que, je le disais tantôt, si tu veux bien performer dans le gymnase, il faut que la tête soit en ordre.
Exact. Mais j'allais dire, c'est qu'on peut faire ça également à distance parce que le sujet de Kéké est venu dans votre conversation aujourd'hui.
Oui, puis j'ai gardé l'extrait, même si Patrick, québécois, là, s'exprime bien en français, vous l'avez entendu, j'ai gardé l'extrait en anglais parce que ça dit bien ce qu'on est content de ce que Kéké a fait. Kotkaniemi, on le sait, est arrivé dans une forme resplendissante et il va nous expliquer, Patrick Delisle-Houde, dans le prochain extrait, que Kotkaniemi a fait ses devoirs, non seulement pendant qu'il a été à Laval, mais quand il était en Finlande, avec son préparateur physique personnel. Voici le préparateur physique du Canadien sur le progrès enregistré par Jesperi Kotkaniemi.
It's very simple, immature. Immature a lot. I think it was good for him to go back and like think about what he needs to improve. And it's with discussion. The team in Laval did a great job. You got to tip your hat off to Joel and to his to the team over there that surrounded him very well. And also to his strength coach back home. He just spent a lot of more time. He understood that he had to train harder in terms of becoming stronger, and he did. So well done, KK.
Alors, la job a été faite pour Kotkaniemi, c'est ce que nous dit Patrick Delisle-Houde. Il a bien travaillé avec son préparateur physique là-bas en Finlande. Il a compris certaines choses aussi, Jérémy. C'est normal. Tu sais, à un moment donné, c'était le plus jeune joueur de toute la Ligue nationale. Je pense que lui, il se doutait peut-être pas. Comme on dit, là, l'appel réveille là, quand tu t'aperçois, tu dis, oh, c'est une ligue d'hommes, ça travaille fort ici, ça pousse fort dans le gym, ça pousse fort sur la glace. C'est normal ce qu'a vécu Jesperi Kotkaniemi. Et on ne dira jamais que peut-être là, que le séjour à Laval aura sauvé le premier choix du Canadien. Il a été question également de Jake Allen, qui est arrivé dans l'organisation et qui sera un très bon soutien pour Carey Price. On en avait parlé la semaine dernière, Jérémy, lorsqu'il a été question du point de presse de Stéphane Waite, l'entraîneur des gardiens. Mais sur le plan entraînement, ça va aussi aider Carey Price d'avoir un auxiliaire qui peut prendre un plus grand nombre de matchs et que ça ne mette pas la place place du Canadien en série en jeu pour autant. Voici Patrick Delisle-Houd là-dessus.
Alors, pourquoi c'est intéressant? Il va probablement avoir plus de temps pour se reposer, pour récupérer et passer du temps dans le gym pour qu'on puisse adresser, je n'appellerais pas ça les petites défaillances, mais les petits bobos qui arrivent durant la saison. Qu'on s'assure qu'il soit capable de recruter les bons muscles pour faire les mouvements qui soient appropriés à la vitesse qu'il le désire sur la patinoire. Pour nous, c'est excellent parce qu'on sait qu'on va avoir Jake Allen, un gardien de but de qualité dans le but, lorsqu'on va être capable de reposer Carey et qu'on soit capable d'y accorder davantage de temps au niveau du gymnase.
On le souhaite, honnêtement, on le souhaite, Martin, ce gars-là soit capable de récupérer, mais aussi de prendre du temps en gymnase et prendre du temps peut-être pour s'entraîner, parce que quand tu es toujours sur la glace, puis quand tu es toujours dans les matchs, tu n'as pas toujours le temps de prendre le temps. Et ça, quand tu as un gardien de but qui est un second, qui peut faire la job, peut-être qu'on pourra prendre un peu plus le temps avec Carey Price.
Oui, puis tu sais, je veux t'amener aussi à un autre élément de conversation qu'on a eu avec Patrick. Tu sais que maintenant, on installe vulgairement, là, ce sont des GPS qu'on installe sur les joueurs, là, des puces, puis on est capable de suivre leurs mouvements sur la glace. Ensuite, on collecte ces données-là, puis on est capable de dire quelles énergies ils ont dépensées pour faire les mouvements qu'ils ont fait pendant l'entraînement. Mais probablement que dans la prochaine année, là, les clubs auront accès à ces données-là pendant les matchs. Alors ça veut dire, Jérémy, là, on va pouvoir savoir exactement la dépense énergétique que, par exemple, Carey Price fait en pratique, en match. On va être capable peut-être de déterminer, OK, est-ce que le gars il a une baisse d'énergie? Est-ce qu'il est à risque de blessure? Est-ce qu'on doit commencer à moduler son temps de pratique? Est-ce qu'on doit augmenter son temps hors glace? Écoute, c'est vraiment phénoménal ce qu'on est en train de faire avec ces recherches. Puis il n'y a pas seulement le Canadien, il y a beaucoup d'équipes, évidemment, qui travaillent là-dessus depuis plusieurs années. Mais là, ça a été négocié d'ailleurs avec les joueurs, cette affaire-là, là, pour qu'on puisse avoir une lecture carrément de la télémétrie, comme dans le temps de la Formule 1, là, quand c'était légal. Ils pouvaient savoir exactement comment le cœur du char fonctionnait, mais le moteur pendant la course.
Martin, j'avais le goût de te dire, d'après moi, il y a une couple de joueurs dans la Ligue nationale qui vont trouver la batterie puis qui vont en dépluguer pour pas qu'on sache quand ils ralentissent un peu ça a de l'as.
Ouais, mais tu sais, ralentir sa glace, c'est pas grave, ça. Ah ouais, le coach est capable de le voir dans le vidéo, là.
Mais s'il y a un GPS, pour se rendre compte que c'est pas souvent que tu vas dans le coin, là, moi, je pense qu'ils vont débrancher la batterie.
Non, mais c'est surtout de savoir, Jérémy. C'est surtout de savoir. Non, je comprends puis je te suis très bien, mais c'est vraiment de savoir à quel moment le joueur se met en situation de vulnérabilité. Parce que, écoutez, vous avez fait du sport, probablement, les gens qui nous écoutent, là, vous n'avez même pas besoin d'avoir fait du sport de haut niveau comme ces personnes-là, là, comme les athlètes de haut niveau, là, mais quand on est fatigué, là, les accidents dans les centres de ski, ça arrive quand, d'après toi? Tu sais, les patrouilleurs nous racontent là, que dans les montagnes de ski, là, les accidents, c'est entre 3h30 et 5h moins quart. Pendant ce temps-là, là, les gens ont skié toute la journée, ils ont les jambes un peu plus molles, il a fait froid, ils sont rentrés dans le chalet, ils retournent sur la montagne, puis là, whoops, ils sont moins prudents, ils sont moins au niveau de l'acuité visuelle, au niveau de l'énergie, puis là arrivent les accidents. Ben, les joueurs de hockey, c'est la même affaire. Alors, ces données-là, c'est à ça que ça va servir. On a également, Jérémy, en quelque sorte, Patrick Delisle-Houd, tu sais que la semaine passée, on avait parlé là, de Hervé Pinard et de Teasdale qui s'entraînaient dans la cour arrière du bungalow de Teasdale en banlieue nord de Montréal et tout, avec un vélo stationnaire emprunté. Puis j'en ai parlé à Patrick Delisle-Houd, puis c'est pas, tu sais, c'est deux réalités, là. Les jeunes joueurs n'ont pas les revenus de chez Weber pour avoir une grande maison puis avoir un gym full équipe, comme on dit en bon québécois, au-dessus du garage, là. C'est pas tout le monde qui est dans cette réalité-là. Mais Patrick Delisle-Houd a souligné la détermination et le caractère et surtout le niveau de responsabilité dont font preuve, entre autres, Harvey Pinard et Teasdale dans ce qu'ils font. Ils se débrouillent, les gars. Et ça, c'est bon. On s'en était parlé la semaine dernière, mais le préparateur physique du Canadien, ben, il dit, vous savez, là, on a des gars de caractère dans cette organisation-là. Puis il dit, je sais que ça se passe comme ça, non seulement pour eux autres, mais pour beaucoup d'autres.
Mais c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, c'est une bonne nouvelle quand tu sais que tes jeunes sont capables de se débrouiller et trouver des façons pour se garder en forme. Et je retiens toujours cette phrase de Joël Bouchard, tu sais, pendant qu'on se parle, il y a quelqu'un à quelque part qui est en train de faire des push-ups pour prendre ta place. C'est ça l'idée de la compétition dans la Ligue nationale de hockey. Martin, terminant, donc, peut-être nous rappeler qu'on attend. C'est ça qu'on fait.
On attend également, là, tu sais, je vous disais tout à l'heure, là, au niveau des pourparlers, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de pourparlers vraiment entre les deux parties, parce que les deux parties se parlent chacun de leur côté. Les propriétaires ont des enjeux financiers pour rencontrer les obligations qui ont été signées dans la dernière convention collective, là. Encore là, il y a peut-être une possibilité non confirmée selon les informations que je pouvais avoir, là, qu'on se préparerait à demander aux joueurs un 13% de paiement différé sur leur salaire, en plus des 10% qui ont déjà été négociés l'été dernier, et bien sûr de la ponction de 20% qui sert à aller dans le fonds de sûreté pour maintenir le plafond salarial. Ça ramènerait les revenus des joueurs à 61%, mais ça, c'est pas confirmé. Puis tout ça, en conclusion, je répète une chose, Jérémy. La raison pour laquelle les propriétaires de la Ligue nationale sont dans cette situation-là, puis que c'est plus difficile de conclure avec les joueurs, c'est qu'ils ont des problèmes dans leur propre cours, et ces problèmes-là sont très faciles à expliquer. La NBA n'a pas ces problèmes-là parce qu'ils font beaucoup, beaucoup d'argent avec les droits de télévision et les droits Internet. Les équipes de la Ligue nationale, je le rappellerai, là, ne vont pas chercher plus d'un milliard de dollars au gros maximum avec les droits de télévision, autant payés par les Canadiens, Rogers, et les Américains, NBC. Et c'est exactement là que ça se passe. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un peu plus du côté des joueurs.
C'est un marché qui est complètement différent. Martin, merci beaucoup de nous avoir informés encore une fois. On s'y est au courant et s'il y a quoi que ce soit, ben, on sera en mesure de se parler tout au long de la semaine. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous.
Bonne émission, Jérémy.